On commence par la première édition du jour. Elle est signée Claire Flochel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Bientôt une écotaxe sur les trajets en avion. Les billets au départ de la France plus chers dès l'an prochain. Décision du gouvernement. Air France affirme que cela lui coûtera 60 millions d'euros par an.
Autre annonce du gouvernement hier, l'homéopathie ne sera bientôt plus remboursée. Des remboursements des granules d'ici 2 ans.
Un délai pour les laboratoires. Le numéro 1 mondial Boiron estime que plus de 1000 emplois directs sont menacés. C'était le duel politique à ne pas manquer à la télévision outre-Manche. Le face-à-face Boris Johnson-Jeremy Hunt. Les deux derniers candidats en lice pour devenir Premier ministre. La campagne doit prendre fin dans 2 semaines et chacun jette ses dernières force dans la bataille. Les billets d'avion plus chers l'an prochain. Le gouvernement a donc annoncé la mise en place d'une écotaxe sur les vols au départ de la France entre 1,50 € et 18 euros. Une partie de ces recettes sera réinvestie dans les infrastructures ferroviaires. Alors la directrice générale d'Air France, Anne Rigaille, dénonce une concurrence déloyale.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier levier d'action pour une compagnie aérienne, c'est la transformation de sa flotte et l'achat d'avions de nouvelle génération. Cette taxe, nous estimons qu'elle va impacter l'économie d'Air France d'environ 60 millions d'euros par an. Et 60 millions d'euros par an, c'est un certain nombre d'avions que nous ne pourrons pas investir. Deuxième peine, c'est que cette taxe ne va pas réellement être utilisée pour la transition environnementale du transport aérien, puisqu'elle va être dirigée vers des investissements sur les infrastructures routières et ferroviaires qui bénéficient déjà largement d'argent public, contrairement au transport aérien qui finance l'intégralité de ces infrastructures. Et enfin, n'oublions pas que l'activité d'Air France et plus globalement du transport aérien français, elle se déroule dans une compétitivité assez violente, une concurrence très forte, et que Air France représente 1,1% du PIB français et 350 000 emplois directs ou indirects.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. La taxation sur les billets d'avion est donc décriée par les compagnies aériennes, mais saluée comme un premier pas par les ONG. 180 millions d'euros par an. Voilà en tout cas ce que cette nouvelle taxe devrait rapporter. C'est finalement peu par rapport aux exemples britanniques ou allemands, Louise Baudet.
Champion de la taxation des billets d'avion, le Royaume-Uni. Né il y a 25 ans, le Air Passenger Duty coûte jusqu'à 146 livres par passager et a rapporté en 2017 l'équivalent de 3,6 milliards d'euros. En Allemagne, la taxation du billet peut aller jusqu'à 45 euros et le rendement de cette contribution créée en 2010 dépasse le milliard. Beaucoup plus donc que les 180 millions que devrait rapporter la nouvelle taxe française. Mais attention, en France, le transport aérien est déjà mis à contribution à hauteur de 600 millions selon les compagnies, via notamment la taxe Chirac qui finance la lutte contre les grandes pandémies comme le sida. Alors taxer les billets d'avion, pour quel résultat? En Suède, le prélèvement instauré il y a un peu plus d'un an a permis de baisser le trafic et donc les émissions de gaz à effet de serre d'environ 5%, alors qu'au niveau mondial, le transport aérien connaît un boom continu. La Suède, pays où la honte de voler, le Flixcam, est en train de devenir viral.
Louise Baudet. Sur la route aussi, la ministre des Transports a fini par s'attaquer à l'avantage fiscal des transporteurs routiers. Les aides au gasoil pour les camions vont être réduites, une réduction de 2 centimes par litre. Les entreprises de transport routier furieuses se disent prêtes à bloquer les routes.
D'ici 2 ans, ouais, Claire Flochel, l'homéopathie ne sera plus du tout remboursée par la Sécurité sociale. La ministre de la Santé a tranché. Agnès Buzyn suit l'avis de la Haute Autorité.
Pour l'instant, les granules sont remboursés à hauteur de 30%. Cela descendra à 15% l'an prochain. Une mesure sensible politiquement. 7 millions de Français ont recours à l'homéopathie. Frédéric Seize, l'annonce divise donc les députés.
Jusqu'ici, tous les ministres de la Santé avaient reculé. Depuis que l'homéopathie est remboursée, depuis 1984, tous les gouvernements ont enterré ce sujet passionnel. La preuve, 1 million de personnes ont récemment signé une pétition contre le déremboursement et ses signataires trouvent des relais à l'Assemblée nationale, dont Daniel Fasquelle, député Les Républicains.
Mais ce qu'il faut écouter, c'est surtout l'avis des patients qui considèrent que pour eux, c'est nécessaire, c'est utile, ça améliore leur bien-être, mais surtout leur santé. Mais malheureusement, voilà, cette mesure symbolique, elle va rendre plus difficile l'accès à certains médicaments pour certains patients français, et ça, je le regrette.
Oui, mais les traitements homéopathiques n'ont pas prouvé leur efficacité, martèle Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dans un entretien aux Parisiens aujourd'hui en France. Elle a d'ailleurs mis sa démission dans la balance, et même si l'homéopathie ne représente que 0,7% des remboursements de médicaments, cet argent peut être plus utile, selon Olivier Véran, il est rapporteur du budget de la Sécurité sociale.
Cet argent servira à payer d'autres médicaments plus efficaces, des médicaments innovants, des médicaments contre le cancer, contre les infections, etc., où il ira directement à l'hôpital. Donc ce n'est pas du tout une mesure d'économie et ce n'est pas un recul de la protection sociale. Les dépenses de santé l'année prochaine, elles vont augmenter comme elles augmentent chaque année de 4 ou 5 milliards d'euros.
Reste l'argument de l'emploi, car le premier labo homéopathique mondial est français, Boiron, qui affirme que 1000 postes sont menacés.
Frédéric Seize, et hier soir, le président de l'université Paris Descartes annonçait sur Twitter qu'il suspendait les inscriptions au DU d'homéopathie, indiquant que la faculté prendrait une décision sur l'avenir de la formation à la rentrée prochaine. Le parquet a désormais 10 jours pour faire appel après le procès de l'arbitrage Tapi. Il avait requis de la prison ferme, c'est finalement la relaxe générale. Il n'y a pas eu fraude selon le tribunal correctionnel de Paris, mais le jugement est en contradiction totale avec la justice civile qui a condamné définitivement Bernard Tapi à rembourser les 400 millions d'euros reçus lors de l'arbitrage sur la revente d'Adidas. Alors comment l'expliquer ? Florence Turm a posé la question à Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne et l'ancien d'alerte dans l'affaire Tapi.
Le cheminement civil et le cheminement pénal ne sont pas les mêmes et ce qui est valable au civil ne l'est pas toujours au pénal. Très souvent, c'est concordant, mais parfois ça ne l'est pas et c'est le cas en l'espèce. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sentence arbitrale a été annulée pour une fraude civile et le juge pénal a considéré que cette fraude civile n'allait pas jusqu'à justifier une infraction pénale, une peine pénale et la qualification d'escroquerie. Donc les deux questions s'articulent en réalité assez bien, même si je reconnais qu'il peut y avoir une réaction d'expectative par rapport à cette dichotomie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sentence est annulée, mais il n'y a pas de peine de prison, pour l'instant, en tout cas, ajoutée à cette annulation. On est sur l'appréciation de faits compliqués. Les juges d'instruction ont estimé qu'il y avait matière à renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel. Le parquet a estimé que l'infraction était constituée et a requis des peines lourdes. Et les juges du siège, eux, au vu des mêmes faits, ont une appréciation différente en considérant que la preuve de l'infraction n'est pas rapportée. C'est ça la justice. Ce sont des regards différents qui se croisent et qui portent des appréciations différentes sur des faits identiques.
Pour le juriste que vous êtes, ce serait un cas d'école ?
L'affaire Tapi, dans son ensemble, depuis le début, est une affaire que même l'esprit juridique ou l'esprit le plus tortueux n'aurait pas pu imaginer. C'est un cas pratique comme aucun de mes collègues ni moi-même ne pourrions l'imaginer.
Thomas Clay, professeur de droit et lanceur d'alerte dans l'affaire Tapi. L'optimisme contre l'honnêteté, Boris Johnson contre Jeremy Hunt. En Grande-Bretagne, les deux rivaux au poste de Premier ministre britannique se sont livrés devant les caméras de télévision à un débat en direct hier soir, le premier et unique débat qui a tourné autour du Brexit. À Londres, Marina Daras l'a suivi pour France Culture.
Dans une cacophonie parfois insupportable, les deux candidats n'ont pas dérogé à la ligne officielle de leurs campagnes respectives. D'un côté, Boris Johnson, celui qui a réussi à vaincre les travaillistes en remportant la municipalité de Londres à deux reprises et qui veut absolument sortir de l'Union européenne le 31 octobre prochain, quoi qu'il arrive.
Nous sortirons de l'UE le 31 octobre et je pense que quiconque s'engage dans ces négociations en proposant une fois de plus de reporter les échéances prend le risque de perdre la confiance de l'électorat et de saper notre position de négociation à Bruxelles. Repousser les échéances ne permet pas de conclure un accord. Une date butoir nous permet de le faire. Nous devons respecter cette date du 31 octobre.
À sa gauche, Jeremy Hunt, le candidat au passé d'entrepreneur, l'homme d'affaires pragmatique qui veut une chance de renégocier avec l'UE pour éviter un Brexit catastrophique.
Si nous nous préparons, nous pouvons nous en sortir. Mais nous ne pouvons prétendre que ce sera une promenade de santé. Ce sera très difficile.
Quelques attaques personnelles et très peu de substance finalement dans un débat qui ne changera certainement pas grand-chose au résultat de ces élections.
Marina Daras, correspondante de France Culture à Londres. Le nom du nouveau Premier ministre sera connu dans exactement 13 jours. Hier, Donald Trump s'est de nouveau emporté contre l'ambassadeur britannique qualifié d'imbécile prétentieux. Dans une série de câbles diplomatiques censés rester confidentiels, Kim Darroch avait qualifié le président américain d'instable et d'incompétent. L'affaire a provoqué une crise diplomatique majeure entre Londres et Washington. La météo de ce mercredi, quelques averses sur la Corse et sur le sud-est de la France. Le ciel sera variable sur la Normandie et la Bretagne. Partout ailleurs, la journée sera bien ensoleillée. Les températures sont comprises ce matin entre 6 et 22 degrés.